Étonnant, c'est qu'aujourd'hui, les Français sont tous pour cette espèce d'impérialisme en Nouvelle-Calédonie. À leurs yeux, les Kanaks sont des sauvages, des barbares. Ils coupent les bras des gendarmes à coups de sabre d'abattis. Les gens admettent ça. Ils ont maintenant un jugement sur la Calédonie, mais il y a un an ou deux, ils ne savaient pas où ça se trouvait.
Passerelle pour la Nouvelle-Calédonie, deuxième et dernier volet.
Dès que les gens manifestent une solidarité ou disent quelque chose en faveur des Kanaks, ils reçoivent des menaces immédiatement. S'ils sont des commerçants, on leur téléphone en disant « on va faire sauter ton magasin ». S'ils ont pris des positions encore plus nettes, on met des voitures qui se mettent devant leur maison jour et nuit. On téléphone la nuit, on réveille leurs femmes en les traitant de tous les noms, en disant « on va te faire sauter ta maison ». Enfin. On met les gens dans des situations impossibles, donc ils ont pris le parti de se taire.
En septembre 1980, un Européen, Pierre de Clercq, a été assassiné. Bon, il a été remplacé par M. Éloi Machaureau. Nous connaissons le sort qui lui est arrivé. On peut dire que la responsabilité de certains partis politiques entraîne un taux de mortalité assez élevé. Olivier Coué, qui travaillait au matin, en rentrant chez lui un soir, après un interview accordé à Jean-Marie Tchibaou, Iwene, je ne sais pas, a été agressé par des gens qui lui ont fait une tête grosse comme ça, quoi, à coup de matraque, etc., et qui a été rapatrié dans les 48 heures en France. Bon, donc il y a des risques qui existent, hein, puis alors, les voitures qui sautent, les menaces faites sur les enfants, les choses comme ça. Je sais que ce qui est dit là risque de choquer beaucoup de personnes parce qu'elles ne veulent pas le voir. Mais je peux dire que, oui, des gens que je connais ont eu leurs enfants qui ont été menacés.
Celui qui vient de parler a été personnellement plusieurs fois agressé. La semaine dernière encore, son pare-brise de voiture volé en éclats sous un coup de fusil de chasse, en pleine nuit, devant chez lui. Vous comprendrez donc pourquoi, même s'il ne me l'a pas demandé, je lui conserverai l'anonymat. La seule chose que je peux vous dire est qu'il est caldoche. Interdit de séjour dans sa propre famille, qu'il a renié à cause de ses idées. L'autre voix, celle que vous avez entendue au début, est celle d'un homme qui, lui, désire rester anonyme. Il a eu longtemps des fonctions très officielles en Nouvelle-Calédonie. C'est un métropolitain installé là-bas depuis plus de 50 ans. Sa maison, un jour brûlée, également à cause de ses idées. Aujourd'hui donc, Passerelle vous entraîne au cœur de témoignages qu'on a peu l'habitude d'entendre, ceux des parias, des traîtres à leur race, comme certains les considèrent, c'est-à-dire des blancs pro-canaques. Ils sont du reste beaucoup plus qu'on ne le croit, aussi bien en brousse qu'à Nouméa même. En brousse, nous y partirons avec des canaques pour comprendre cette différence de culture. Quant à Nouméa, on embarque tout de suite.
On s'aperçoit que lorsqu'on est à Nouméa, ça n'arrête pas de monter, descendre. Au loin, on a des chaînes de montagnes, aujourd'hui perdues dans la brume, avec des endroits marqués par la pluie, beaucoup de pluie tropicale en ce moment. En bas, qu'est-ce que c'est, ça?
En bas, c'est le nickel, l'usine métallurgique de d'Oniambo, à Nouméa, qui est la monoproduction, ici en Nouvelle-Calédonie. Monoproduction qui, d'ailleurs, occupe beaucoup de place par rapport aux autres industries, à la mise en valeur du pays. Et c'est une usine qui est réputée, enfin c'est une industrie qui est réputée actuellement en crise à cause des coûts.
Tout autour de nous, maintenant on est repassé, on a refait un virage, c'est vraiment superbe à voir en tout cas. Là, Nouméa, c'est une sorte de succession de vallées, c'est quoi? Comment ça se situe?
Nouméa, c'est une presqu'île. C'est une presqu'île qui a été choisie par un marin pour le site du voilier, hein, parce que le voilier était bien à l'abri dans la rade de l'île Nou. Et il n'a absolument pas tenu compte de la configuration du relief, ni des problèmes que ça poserait pour l'aménagement du territoire, pour l'aménagement du relief, pour l'approvisionnement en eau, et ne serait-ce que pour les voies de communication. C'est pour ça que Nouméa ressemble un petit peu, avec les montées, les descentes, ça ressemble un peu à San Francisco, c'est vrai. Nouméa, c'est ce qu'on appelle la ville blanche, ça rappelle bien des souvenirs pour ceux qui ont habité en Algérie ou qui ont vécu l'époque de l'Algérie, c'est vrai. C'est la ville blanche, c'est-à-dire qu'elle rassemble plus de la moitié de la population de l'île, ce qui est un monstre démographique, c'est quand même extraordinaire. Et dans cette ville blanche, eh bien, il y a des enclaves ethniques qui sont, il faut bien le dire, non blanches, hein, c'est-à-dire qui sont soit asiatiques, soit mélanésiennes. Alors, il est intéressant de constater sur le terrain que s'il n'y a pas une ségrégation par les lois, par la juridiction, etc., il y a au niveau de l'habitat des choses qui sont bien réparties comme ça, où la géographie urbaine met chacun à sa place.
En résumé, ça veut dire qu'on ne trouve pas spécialement de Mélanésiens dans les quartiers centraux de Nouméa ou...
Bien, dans les quartiers chics de Nouméa, si, on trouve des Mélanésiennes comme femmes de ménage. Mais sinon, au point de vue habitat, non, on ne trouve pas, c'est sûr. Ce qu'on a droit devant nous, là, c'est donc la baie de Magenta, avec un nom qui évoque bien la colonisation, puisque Magenta, comme on le sait, c'est un nom qui rappelle les aventures militaires extérieures de Napoléon III. La Grande Terre, elle, c'est de là qu'est partie la colonisation européenne, à partir de Nouméa, qui s'appelait au départ Port de France. Et la colonisation est montée par l'ouest, par la côte ouest, jusqu'au nord. Il y a des villages qui sont groupés, hein, sorte de bourgades, sorte de fortins aussi, hein, qui représentent des bastions de la colonisation. Les Mélanésiens ont été expropriés de leurs terres à ce moment-là, et ils ont été rejetés sur la côte est. Et c'est pourquoi sur la côte est règne la plus grande confusion à ce niveau-là. D'abord, il y a une implantation européenne qui est nettement moins importante que sur la côte ouest. La côte est est vraiment la côte mélanésienne. Mais il n'y a pas la structure, la belle structure clanique mélanésienne que l'on peut constater aux îles Loyauté, Lifou, Marais, Ouvéa. Au contraire, sur la côte est, tout est mélangé, parce que en expropriant les terres, toute la structure clanique a été désorganisée, et les gens qui ont été expropriés ont été rejetés chez les autres. Ce qui crée au niveau coutumier, ce qui crée au niveau familial, d'énormes difficultés. Il ne faut pas oublier qu'en Nouvelle-Calédonie, la population européenne a déjà été complètement implantée. Il y a des lettres de ministres qui existent, je pense en particulier à M. Mesmer, qui a écrit une circulaire en 1972, répondant parfaitement à l'ancien maire de Nouméa, réclamant le fait de faire du blanc, c'est-à-dire d'importer massivement des gens, y compris des femmes, pour faire accroître la démographie en Nouvelle-Calédonie, essentiellement européenne, afin de faire échec, c'est dit clairement dans la circulaire, afin de faire échec à la revendication indépendantiste. Et donc, actuellement, il y a des espoirs de refaire du blanc sur la côte est, mais on peut douter que dans la circonstance actuelle, dans la conjoncture actuelle, cela puisse trouver un appui quelconque, cela puisse correspondre à une quelconque réalité. Les contacts avec les Européens se sont faits progressivement à la fin du 18e et puis au début du 19e siècle. Et c'était surtout des contacts avec les Anglais, aussi bien les marins anglais que les catéchistes anglais. Mais c'est surtout donc au milieu du 19e siècle que le Second Empire français a eu besoin d'une terre de déportation, ne serait-ce que pour ses propres opposants, puisqu'il y avait donc ceux qui s'étaient battus avec leurs mains, avec leur sang pour maintenir la démocratie en France, la Deuxième République. Et puis il y a ceux qui, déjà dans les territoires annexés par la France, en Algérie, se battaient aussi. Donc, pour se débarrasser de ces indésirables, il fallait les envoyer le plus loin possible de la France. Et la Nouvelle-Calédonie a été choisie donc comme terre de déportation au départ. C'est pourquoi la France a pris militairement possession de la Nouvelle-Calédonie en 1853, dans le nord-est de l'île. Et que pendant fort longtemps, d'ailleurs, cette terre est restée non pas une colonie de peuplement, mais une colonie d'exil, où il y avait fort peu d'hommes et encore moins de femmes. Qui est de 150 000 habitants sur l'ensemble du pays, ce qui est peu lorsqu'on se réfère à la métropole. C'est une petite ville, une moyenne ville de province.
Sur un territoire grand comme la Belgique, il faut dire à peu près. Hein.
Exactement, puisqu'il fait 16-17 000 km². Au point de vue de la répartition ethnique, on a à peu près 60 000 Mélanésiens, et puis le reste, donc 45 000 Européens. Et le reste, c'est une mosaïque de petites ethnies qui ont été importées à différentes étapes de la colonisation. C'est-à-dire les Indonésiens, on appelle les Javanais, les Vietnamiens, hein, ça correspond à d'autres guerres coloniales que la France a menées, ou alors tout simplement ceux qui viennent de Wallis et Futuna, et qui ici correspondent à des immigrants qui pour une fois sont fort bienvenus. Hein. Parce qu'il constitue le plus gros de la clientèle de M. Lafleur. Et donc, moyennant des chèques qui sont distribués, moyennant des pressions pour des emplois, ce sont des gens qui constituent les bataillons de votants du RPC, hein, pour l'instant. Parce que lorsque ces gens-là se rendront compte que leurs conditions de vie, leurs conditions de travail, leurs conditions de logement ne sont pas foncièrement différentes de celles des Mélanésiens, il est fort possible que les gens qui les ont fait venir aient de mauvaises surprises. Il y a cette population européenne qui se divise en deux, donc les Caldoches et les métros. Alors les Caldoches sont ceux qui sont issus de plusieurs générations de colonas ici en Nouvelle-Calédonie, dû à la colonisation en Nouvelle-Calédonie, troisième, quatrième génération, etc. Et puis il y a les métros, c'est-à-dire, tout le monde aura compris, c'est l'abréviation de métropolitain, et qui correspondent à des gens venus dans le cadre de l'éducation nationale, ou dans le cadre des forces armées ou des forces de police, il y en a beaucoup en ce moment, ou dans le cadre des douanes, ou etc., etc., etc. Mais ces gens-là viennent, bien entendu, en tant que, entre guillemets, en tant que travailleurs immigrés. Ce sont les travailleurs immigrés, je crois, qui ont les meilleurs salaires du monde, hein, qui ont les meilleures conditions possibles et imaginables. Beaucoup parlent ici des métropolitains, hein, des métros, etc. Et c'est très amusant parce que, autant ici à Nouméa, le terme de colonie est un mot interdit, un mot qui est chargé d'affectivité, chargé de passion, et qui est banni du langage des Caldoches, par exemple. Autant ils n'hésiteront pas à employer le mot métropolitain, ce qui, pour le moins, est un paradoxe. Parce que, à partir du moment où l'on reconnaît explicitement qu'il y a une métropole, on reconnaît implicitement qu'il y a une colonie. Lorsque les gens ici revendiquent leur appartenance à la France, et que dans le même temps ils se revendiquent Caldoches, qu'est-ce que cela veut dire? Ils se veulent se rattacher à quelque chose que pour beaucoup ils ne connaissent même pas. Et si en plus cette mère patrie, comme ils l'appellent, ne leur donne pas entièrement satisfaction, comme disait Monsieur Pisani, du fric et des flics, eh bien, ils sont prêts à se rattacher à autre chose, c'est-à-dire au drapeau américain. Alors, on se demande où est l'enracinement, finalement. On se demande si c'est vraiment, véritablement, cette terre qu'ils s'affirment prêts à quitter si jamais il y avait un pouvoir kanak indépendant ici, ou si ce sont des raisons plus obscures. Moi, je pense que lorsqu'on s'affirme patriote comme ils le sont, ce patriotisme devrait d'abord s'appliquer à la terre où ils se trouvent et essayer de savoir si, sur place, il n'y a pas un patriotisme à développer.
Parallèlement à cette population blanche, il y a la population mélanésienne qui veut se faire appeler elle-même la population Kanak, et pour ça nous allons nous rendre du côté des îles.
Les Kanaks viennent de vivre pendant 12 ans une lutte. Et en vivant une lutte, ils se sont forgés une personnalité. Ils ont réveillé un certain nombre de traditions, un certain nombre de forces psychiques qui leur sont propres, de coutumes. Ils ont voulu revivre leur vie pour survivre. C'est-à-dire, le peuple Kanak, il se crée tous les jours un peu plus et tous les jours un peu plus fort. Le problème devient le problème du sang et du sol.
Comment ça s'appelle l'endroit où on est ?
Dans la tribu de Gosana.
Alors là, on est arrivé il y a très peu de temps et on a fait ce qu'on appelle la coutume.
Cette coutume, c'est une tradition, c'est la tradition Kanak. C'est d'abord le respect des lieux, le respect des vieux, le respect du chef. C'est une tradition de faire la coutume, c'est-à-dire que dans nos castes, il y a des ouvertures basses et on est obligé de se baisser pour rentrer dans la caste. Donc c'est pour concrétiser cette façon, on s'abaisse devant les vieux, devant les chefs.
En fait, une tribu, c'est, pour vous, c'est quelque chose de complètement communautaire. Tout est mis en commun.
C'est ça, hein. Au niveau de la tribu, si moi je vais à la pêche, par nos traditions, je ne peux pas manger du poisson seulement chez moi sans donner à mon frère qui est à côté ou sans donner à mon grand-père qui est à côté. Même si je fais des champs, si j'ai des patates, je vais penser à une vieille qui est à côté. C'est un peu la vie communautaire. Hein.
Ça va même plus loin, ça va dans les choses qu'on sait aussi, on est obligé de partager.
Ah oui, de partager. Toutes les décisions qu'on peut prendre au niveau de la tribu, on prend ça en commun. On prend ça au niveau de la tribu, au niveau du clan, ou au niveau de la chafouille.
Il y a une hiérarchie à l'intérieur d'une tribu.
C'est ça, oui. Il y a une hiérarchie et on nomme pas n'importe qui pour être chef, quoi. Par exemple, nous, dans notre tribu, il y a un clan, il y a une famille qui...
Quand tu appelles un clan, c'est une famille.
Oui,
c'est ça.
Famille,
ouais.
Donc, pour être chef, il faut prendre un gars qui est issu de cette famille. Ouais. C'est comme, je crois, en France, tout ça, c'était pareil dans le temps. Hein. Les rois, on nomme pas n'importe qui à être roi, vous voyez.
Chacun a sa fonction bien déterminée à l'intérieur de la tribu. Tu me disais, il y a les jeunes qui sont partis travailler. Là, je vois l'endroit où on va, il y a des femmes qui sont assises tout en haut. Qu'est-ce qu'elles font, là ?
Ah, c'est une organisation, oui. On a une organisation au niveau de la tribu. C'est pas une organisation coutumière, c'est une organisation pour essayer de faciliter le travail. Donc aujourd'hui, il y a des femmes à qui on a donné comme travail de faire les... préparer à manger, il y a des jeunes qui sont là pour faire le thé, pour faire préparer la viande, tout ça. Donc c'est pour que tout le monde participe, quoi.
C'est-à-dire que chaque jour, il est donné des attributions à chacun,
ouais,
ou chacun. Comment ça se passe?
Oui, c'est ça, chaque groupe, quoi. Il y a un groupe qui fait les marmites, qui préparer à manger, il y a un groupe qui fait le thé, un groupe qui va chercher du bois, un groupe qui va peut-être à la pêche. Donc ce sont des groupes, tout le monde participe à cette vie, quoi. Les femmes, ils font les manioc, tout ça, du riz, tout ça. Mmh. Et là, les hommes, ils font des poulets, du cochon, tout ça, pour la viande.
L'élément essentiel de la culture Kanak, c'est la terre. La terre Kanak. Il faut que le Kanak sache qu'elle a une terre, sa terre, elle est sacrée, et elle a ses lois coutumières. La culture Kanak à ses structures propres. Chaque clan a sa religion, a ses doctrines. Et dès que le colonialisme est venu, ben c'est là où il y a eu division entre clans. Et je dis par là que maintenant, il y a le protestantisme, le catholicisme, il y a des sectes. Et c'est pour cela qu'actuellement, on voit des divisions dans la culture Kanak. Ça veut dire que les Kanaks sont divisés par rapport à ces religions qui viennent d'ailleurs. Chaque clan a sa est attaché à sa terre et attaché à sa religion, proprement dit.
C'est quelque chose qui est très important. La terre, c'est la vie du Kanak. Donc, c'est le problème de la terre. Il y a aussi des clans qui sont des propriétaires terriens, vous voyez. Donc, il y a d'autres clans qui vivent sur ce bout de terrain, mais qui ne leur appartiennent pas, ce bout de terrain. C'est-à-dire que dans la coutume, si moi je vais cultiver dans ce bout de terrain ou bien je vais habiter dans ce bout de terrain, il faut que je sache dans ma tête que ce bout de terrain appartient à ce clan qui est propriétaire terrien. Donc si moi je produis par exemple des ignames, hein, pendant la récolte, je suis dans l'obligation de la première récolte à offrir ça soit au propriétaire terrien ou soit à mon chef de la tribu. Donc pour reconnaître, c'est une reconnaissance envers celui qui appartient à la terre. Ça ne veut pas dire que je paye mon loyer, non. C'est une reconnaissance envers ce vieux qui est propriétaire terrien de cette terre où j'habite, où je fais mes récoltes, quoi, mes cultures.
Et chaque endroit de terre a son histoire.
Chaque endroit a son histoire. Y a d'autres endroits où on appelle des tabous, tout ça. Pour nous, Kanak, on peut dire que c'est limité. Vous voyez, je ne peux pas parler de ce qui est sacré de l'autre clan. Vous voyez. Je ne peux pas rentrer dans cet endroit sans l'accord de ce clan.
Ah, c'est-à-dire que tout est très très hiérarchisé et très très délimité à l'intérieur du peuple kanak.
Ah, c'est ça.
Pour aller à un endroit, on nous dit il faut pas faire ceci, il faut pas casser les arbres, ici c'est tabou, nos ancêtres sont là. Et c'est une manière pour nous aussi d'être des écologistes pour préserver la nature. Des endroits très très beaux, nos vieux on dit ça c'est tabou. Pourquoi c'est tabou? Parce que c'est beau et il ne faut pas la détruire, il ne faut pas détruire la nature, l'environnement où on vit. Donc vous voyez, il y a pas mal de points où notre culture est manifestée. C'est des choses qui font partie donc, de la culture kanak, de nos relations avec ceux qui sont déjà dans l'au-delà. Donc pour nous, il n'est pas mort, il est passé simplement de l'état visible à un état invisible et qu'il est allé à un trou et qui permet d'établir toujours les relations entre nous les vivants et ceux qui sont morts. À chaque fois, par exemple, je parle par exemple d'un champ ou quelque chose, si on va à la pêche et tout cela, c'est tous ces vieux-là qui nous gardent. Si on va à la pêche, il ne faut pas faire du bruit. Parce que si on fait du bruit la journée où on va à la pêche, on va déranger nos ancêtres qui sont là, qui dorment. Donc il y a un respect de ceux qui sont morts. Et eux, ils vont faire fuir le poisson parce que nous, on ne les a pas respectés.
Comment ça fonctionne dans la tribu, là, l'école?
L'école fonctionne par ses propres moyens. Il y a des instituteurs qui ont boycotté l'école coloniale, qui s'investissent dans les écoles populaires. Et ensuite, avec la collaboration aussi de quelques camarades militants et des parents militants qui renforcent le personnel.
C'est aussi complètement communautaire, comme tout le reste des activités qu'il y a ici.
Oui. Dans le milieu de la communauté. C'est-à-dire que tous les les parents qui ont accepté le boycott des institutions coloniales, ben, ce sont ces parents-là qui investissent leurs gosses dans les EPK.
Ah, mais c'est-à-dire que les enfants ne vont plus du tout à l'école publique, normale.
Non, c'est la rupture totale. Ce qui est vraiment qu'on rencontre dans les EPK, c'est que les gens partent par la réalité aux besoins du peuple kanak.
C'est-à-dire qu'en fait, vous essayez de leur apprendre la culture kanak, de ne pas l'oublier.
Kanak, oui. La culture kanak, surtout la culture kanak. Et en même temps, il y a d'autres matières, c'est-à-dire que les matières internationales comme le maths, le français, l'anglais. Dans les écoles populaires, on a toujours tendance de faire vivre l'enfant dans son milieu, dans son propre milieu.
Vous, vous avez été instituteur dans les écoles publiques.
Dans les écoles publiques. Et j'avais vécu 26 ans dans les écoles publiques. Et si j'ai opté aux EPK, c'est justement pour sauvegarder ma culture. Parce que dans les écoles publiques, on essaie un peu d'apprendre l'enfant à apprendre une culture qui n'est pas la sienne. Dans les EPK, l'enfant rentre, on ne le prive pas de parler de sa langue. Contraire, on donne la liberté à l'enfant de s'exprimer de sa propre langue. Et c'est là l'avantage de l'enfant, l'enfant kanak. Par contre, dans les écoles publiques, dans les écoles coloniales, ben, on a une pédagogie qui est téléguidée d'ailleurs. On lui apprend le train, on lui apprend le lion, le tigre, mais proprement dit, chez nous, il n'y a rien. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de lion, il n'y a pas de neige. Par contre, on a toujours le soleil. Dans les écoles populaires, le matin, on a le soleil, on dit à l'enfant, tiens, il y a le soleil autour de toi, il y a le cocotier, il y a l'igname, il y a la patate. C'est-à-dire que ce qu'on apprend à l'enfant, c'est qu'on apprend concrètement. Il faut que l'enfant voit, touche, entend. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de l'abstrait. Au contraire, on parle toujours par le concret pour aller à l'abstrait.
Avec une culture générale après qui s'ouvre vers l'extérieur.
Vers l'extérieur. Parce qu'on ne va pas essayer de condamner l'enfant. Parce que l'enfant est obligé aussi de sortir vers l'extérieur. Et je crois primordialement, on doit d'abord apprendre l'enfant ce qui est dans son milieu avant de sortir vers l'extérieur.
On est amené à enseigner dans l'hémisphère sud, à 20 000 km, des choses complètement aberrantes. Complètement aberrantes. Et lorsqu'on parle de géographie de la France comme en première, par exemple, alors qu'à aucun moment la géographie du Pacifique Sud n'est au programme, l'école actuellement est une école coloniale. C'est vrai qu'il y a des programmes nationaux qui ne sont pas adaptés. Maintenant, je pense qu'il y a des couches entières de jeunes Mélanésiens qui sont instruits. Ils n'ont pas la place qu'ils devraient avoir au sortir du système éducatif. Mais il ne nous appartient pas, avant l'indépendance, de faire une réforme du système éducatif.
En brousse, tout n'est pas idyllique, loin de là. Vous l'avez entendu maintes fois ces derniers temps, des maisons brûlent, des gens sont obligés de fuir. Un caldoche a été abattu il y a une dizaine de jours, et le calme, lorsqu'il revient, est souvent précaire, et les coups de fusil partent facilement.
Je pense que les coups de fusil partent des deux côtés. Il y a des intimidations, et les Kanaks, ils ont peur, hein, aussi chez eux. Ils font peur aux Blancs, mais eux aussi ont peur, parce qu'ils se sentent guère en sécurité, d'autant plus que les Blancs sont armés, ils ont tous 4-5 fusils, ils ont des carabines américaines à 16 coups, ils ont un équipement, ils ont des moyens de se battre sur, physiquement et avec des armes. Bon, donc les Kanaks ne sont pas tellement tranquilles. Il est vrai qu'en brousse, les Blancs ne peuvent pas l'être non plus dans ces conditions. Et c'est cette situation qui est déplorable. On en est arrivé là, alors qu'auparavant, les gens votaient ensemble, du temps de l'Union calédonienne. Alors, il y a bien une détérioration de situation qui vient d'une politique, qui est une politique de la France, Quand je dis de la France, je vais un peu fort. Du gouvernement français, des élus français, des responsables français, depuis une trentaine d'années.
De quelque bord qu'ils soient.
De quelque bord qu'ils soient, évidemment. On ne peut pas dire qu'il y a une moitié de Français qui est responsable et l'autre moitié qui ne l'est pas. Mais non, ils sont tous plus ou moins responsables d'avoir pas voulu aborder un débat dans le fond et d'avoir peur de ce que dira l'adversaire. Parce qu'en fait, chaque fois qu'il y a une solution proposée, on a toujours peur de se faire accuser par l'adversaire, de, soit de lâcher un territoire français, soit de capituler, soit de ceci, soit de cela. Bon, alors ça empêche de prendre des solutions, disons, définitives, franches, et qui permettront à ce territoire de stabiliser. Qu'est-ce qu'on peut reprocher aux Kanaks ? De vivre dans des huttes où le sont en terre battue, de ne pas avoir des... le confort moderne partout, ben, c'est pas de leur faute. Bon. Deuxièmement, de ne pas être des bons gestionnaires, mais quand on n'a pas d'argent, on n'apprend pas à gérer l'argent. Hein. Depuis 4 ans, ils ont géré des régions, et à la satisfaction générale, ils ont bien... gérer les régions. Ils vont chasser les Blancs. C'est fou de penser que cette accusation peut encore être prise au sérieux. C'est faux. Seulement, ce qu'il y a, c'est que les Blancs doivent songer à ce que le fossé se creuse encore davantage en ce moment à cause de la lutte, hein, qui devient de plus en plus atroce. Enfin, quand on voit ce qui s'est passé au Ménédor, c'est épouvantable. C'est ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie.
Quel que soit le destin que veut choisir le peuple kanak, je pense de toute façon que ce destin à l'heure actuelle ne passe pas par l'excommunication, par le rejet d'une autre partie de la population, d'autres groupes ethniques. Je pense qu'en définitive, ça repose sur autre chose, sur une autre réalité. C'est qu'en définitive, il y a beaucoup de gens. Et je ne parle pas ici des broussards, je parle ici des 46% de la population active constituée par des fonctionnaires. C'est-à-dire que ça ne correspond absolument pas au développement économique du pays. Ces gens-là savent très bien que demain, dans un pays qui assumerait librement et son destin politique et son destin économique, ces gens-là ne trouveraient pas la place au niveau où ils se trouvent actuellement. Et par conséquent, la prospérité qu'ils connaissent actuellement serait fatalement remise en cause. Donc, ces gens-là, et par leur porte-parole, exploitent de façon éhontée la haine raciale et la peur de l'autre en disant à des gens qui sont humbles, à ce qu'on a appelé déjà en Algérie les petits blancs, en disant c'est vous qui allez perdre le plus. C'est pas vrai, c'est pas eux qui vont perdre le plus. C'est justement tous ces gens qui sont nantis, qui ont des intérêts extrêmement bien structurés ici, qui risquent le plus, et les risques ne se passent pas tant sur le plan ethnique, sur le plan racial, sur le plan de la haine, sur le plan de la cohabitation, que sur le plan des intérêts qui sont défendus par les uns et par les autres.
Pourquoi le caillou intéresse tant le monde ? Parce qu'on parle de l'Australie, on parle de la Nouvelle-Zélande, on a parlé des Soviétiques, la France veut s'y maintenir.
Il y a 3-4 ans, la France a découvert le Pacifique. Il y a les plus grandes nations du monde au point de vue peuplement sont autour du Pacifique. La Chine, l'URSS, le Canada, les États-Unis, etc. Alors, la géopolitique, on dit, la France, c'est la... une arme de dissuasion, si de l'autre côté de la Terre, aux antipodes, elle a aussi la même forte dissuasion, ça lui fait un poids énorme. Donc il faut garder ça. Et surtout si, d'après certains renseignements, on fait une base militaire et navale à Nouméa avec des sous-marins nucléaires, on renforce cette dissuasion, donc c'est un rôle très important.
C'est quoi là ce que vous êtes en train de me dire ? C'est une chose qui a été envisagée ?
Oui, c'est envisagé. J'en ai entendu parler. On n'en parle pas très fort, mais enfin, on en parle. Alors, à mon avis, oui, pour l'instant, c'est bien, mais il y a une politique mondiale qui change entre les États-Unis et M. Gorbatchev, donc il y a aussi remise en cause, remise en examen des problèmes du Pacifique. On ne sait pas à quoi ça aboutira, mais enfin, ce n'est pas tout à fait ce qui se présentait il y a un an ou deux.
Vous y croyez pas, aux Soviétiques arrivant pour essayer de... Pas arrivant pour essayer de prendre la Nouvelle-Calédonie, certainement pas, mais enfin, disons ce qu'on raconte, c'est-à-dire armer les Kanaks de manière à rejeter tous les Blancs à la mer, et lorsque tout le monde aura été rejeté, que le gouvernement français sera parti.
Ben, vous savez, c'est pas facile à réaliser. Si c'était facile, ça serait déjà fait, je pense. Puis on voit pas pourquoi M. Gorbatchev il se mettrait ce truc sur le dos alors qu'il a déjà des problèmes à régler. Il vient d'en régler un en Afghanistan, il en a encore un au Cambodge, il en a un peu partout. Enfin, avec les Vietnamiens aussi, il a des problèmes. Il en a partout. Il est comme tout le monde, il a des problèmes. Toutes les grandes nations ont des problèmes. Alors, je ne vois pas pourquoi la petite Calédonie l'intéresserait. Non, elle intéresse la géopolitique française, c'est-à-dire un certain secteur du haut état-major en France qui a conçu ça dans le cadre de sa politique, de sa programmation militaire. Bon, je ne vois pas d'inconvénient. Mais on ne voit pas pourquoi aussi une base militaire en Calédonie exige l'asservissement du peuple kanak d'une façon définitive ou même sa disparition en tant que peuple.
Si il y a tant d'intérêt à défendre en Nouvelle-Calédonie, c'est parce qu'au-delà de la Nouvelle-Calédonie, c'est toute la structure néocoloniale de la France dans le Pacifique Sud qui est en jeu. C'est un peu ce qu'on appelle la théorie des dominos. Et ça, quels que soient les ministres des Dom-Tom, ils le soulignent même, si la Nouvelle-Calédonie venait à être indépendante, ce n'est pas seulement la Nouvelle-Calédonie qui devient indépendante, mais c'est Tahiti, mais puis ensuite au-delà, même dans l'hémisphère nord, c'est la Martinique, etc. etc. La Nouvelle-Calédonie, à l'heure actuelle, ne peut pas avoir un quelconque avenir tant qu'elle sera une colonie française. Et cette colonie française, elle n'a pas une quelconque place, elle est au cœur, elle est au centre du dispositif français.
Comment vous voyez, vous, une solution, là, autre que tout ce qui a été abordé pour l'instant?
D'abord, c'est prendre son temps. À mon avis, l'indépendance est inéluctable. Si on disait, allez, telle date, c'est l'indépendance terminée, allez, la France s'en va, ou c'est cela, maintenant, c'est un gouvernement kanak ou un gouvernement calédonien avec participation majoritaire des kanaks, peu importe le mot, à mon avis... C'est une déchirure. C'est un électrochoc pour clamer une date d'indépendance en disant « Maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est plus comme avant. » Et il ne faut pas de ça. Il faut fixer une date de l'indépendance dans un texte de loi. Dans une loi française, s'il y a la date de l'indépendance, c'est irréversible, on ne peut pas revenir dessus. Donc à ce moment-là, les Kanaks auront confiance dans cette prise de position qui est définitive. Par contre, ça peut faire admettre tout le reste. Un transfert des compétences... fait avec des conventions pour transférer tel ou tel domaine, les finances, l'agriculture, les travaux publics ou même l'enseignement, la santé. Enfin, il y a des secteurs qui sont entre les mains de l'État, d'autres entre les mains du territoire. Mais il faut tout transférer et surtout, il faut former un personnel compétent. Et il faut prendre son temps pour qu'il soit compétent, parce qu'en tournant, on dira « Ah ben oui, c'est une indépendance, comme en Afrique, ça s'effondre, c'est mal géré, etc. Il faudra encore aider. »
Si je prends certains chiffres, je sais qu'il n'y a qu'un seul professeur kanak.
Oui. Il y a un seul architecte kanak. Il n'y a pas... Je ne sais même pas s'il y a un médecin kanak. Enfin, s'il y en a un, il est en France, il n'est pas là-bas. Et c'est à peu près tout. Au bout de 130 ans, ce n'est pas énorme, hein. Là, on est bien obligé de constater que l'évolution des Kanaks et leur formation a été freinée. Il n'y a eu aucun effort de fait, ni sur un plan local, par les formations politiques territoriales, ni sur le plan de la métropole, qui, se disant le colonisateur, aurait dû au moins faire un effort en faveur du colonisé. Et c'est aussi une des raisons du ras-le-bol qu'il y a maintenant.
Une mission est restée 15 jours en Nouvelle-Calédonie. Oui. Je crois
crois que historiquement, c'est la première fois qu'on voit ça. C'est énorme. D'habitude, les ministres ou les députés qui viennent restent 2-3 jours. Et quand ils reviennent en France, ils parlent au Parlement en disant « Moi, je connais bien Cagny, j'y suis allé. J'ai fait le tour. »
Vous, vous la connaissez mieux. Vous imaginez la chose comment? On parle en ce moment d'une partition.
J'en ai entendu parler à Nouméa par des habitants de Nouméa, qui sont du reste pas des natifs de Calédonie. Ce sont des métropolitains implantés, qui ont des professions libérales ou autres, et à qui ça permet de continuer à vivre tranquillement, à l'abri de tout un système, à Nouméa, sans changer leurs habitudes. Donc ce qu'il y aurait à faire en Calédonie, ça se passerait en Beauce, ça ne les gênerait pas. Mais il y a surtout le fait qu'ils n'auraient plus à supporter quelque chose qui est à partager avec les Kanaks. Par contre, la partition, enfin, c'est créer un banc tout ce temps, un de plus. C'est aussi réinventer des choses qui durent depuis la fin de la dernière guerre mondiale. Corée du Nord, Corée du Sud, Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, Chypre, partagé en deux, Turc et Grec, enfin, le Nicaragua, vous croyez que ça, c'est un truc qui marche. Enfin, bref. Partout où il y a des problèmes de décolonisation ou des problèmes de rapport entre différentes populations, on a séparé les gens pour les empêcher de se battre. Mais ce n'est pas une solution. C'est les causes de la lutte qu'il faut se supprimer.
Si on prend simplement la séparation territoriale...
Ben, d'après ce que j'ai lu dans la presse, ce qui est assez inquiétant, c'est une déstabilisation en attendant une culbute. Les non-Kanaks auraient le sud du territoire, c'est-à-dire toute la région riche en mines. La partie, au point de vue agricole, qui serait encore intéressante, la région de la Foix, et puis jusqu'à Bouraille, où c'est l'élevage. Donc, ils auraient l'élevage.
Sur la côte ouest.
Sur la côte ouest. Et puis, ils auraient la ville et le port de Nouméa. Ce qui veut dire qu'en cas d'autonomie, et d'autonomie douanière et fiscale entre les deux parties du territoire, pour aboutir peut-être un jour en disant là-dessus, on va voter une indépendance pour mettre à la merci les Kanaks, ben, il suffira d'augmenter les droits de douane et remplir les poches des Européens, puisque c'est eux qui seront maîtres du port et de l'importation. Donc les Kanaks sont entièrement dépendants d'eux. Deuxièmement, on ne parle pas du reste du régime qui serait instauré. L'État français, il est le propriétaire des terres, il est propriétaire des réserves des Kanaks, il est propriétaire des îles et des îlots, il est propriétaire de la zone maritime, il est propriétaire de la zone économique des 200 000. Bon, s'il garde tout ça, les Kanaks sont non seulement dans un bâtiment tout ce temps, mais ils se trouvent à l'intérieur d'une île sans pouvoir accéder à la mer, puisque tout est propriété de l'État français. Et ça, on ne parle pas des transferts, là. C'est des mots qu'on jette en l'air pour essayer de calmer des gens ou pour faire plaisir à l'opinion en France.
C'est voulu par le gouvernement de dresser les uns contre les autres pour vraiment créer une situation de division. Et là, petit à petit, ça s'envenime, cette situation, parce qu'il y a des problèmes. Donc, au niveau de l'Église, on ne peut plus se retrouver. Au niveau de la culture, il y a des gens qui ne viennent plus à cause des étiquettes politiques.
Pour toi, quel est le plus grand problème du peuple kanak, en fait, en Nouvelle-Calédonie, ici?
Le grand problème du peuple kanak actuellement, c'est d'être soi-même. Par exemple, le contact avec une civilisation autre que la nôtre. Et le kanak essaye d'être lui-même dans cette culture-là. On s'aperçoit que, petit à petit, la culture kanak risque d'être marginalisée, notre façon de vivre, nos relations... petit à petit, il y a des ruptures à tous les niveaux. C'est ce que veut le Kanak, c'est de ne pas être en dehors des réalités de ce que nous vivons maintenant, mais d'être lui-même, essayer de maîtriser les autres cultures extérieures pour davantage développer sa culture et ses propres valeurs aujourd'hui dans le monde aussi moderne et tout. pas un retour en arrière pour vivre en autarcie et tout seul, non, mais d'être Kanak aujourd'hui avec le monde d'aujourd'hui et garder ses valeurs. Et ces valeurs-là, je vois, c'est au niveau des relations d'homme à homme. Et ça, c'est ça qui est très important. Et tout le système, par exemple, qui est mis en place ici, des autres cultures, justement, casse ces relations. Ça ne correspond pas à notre façon de vivre. C'est possible d'être dans le monde actuel sans pour autant éliminer toutes les vraies valeurs humaines des relations entre les hommes, les familles et les autres et les étrangers au pays. Parce que dans notre culture, nous avons la place de tout, même l'étranger.
Le débat est loin d'être clos, mais l'heure semble être véritablement maintenant la discussion, puisque cette semaine, Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur se sont rencontrés et qu'une rencontre entre Michel Rocard et Raymond Barre a été annoncée à propos de la Nouvelle-Calédonie. C'était Passerelle numéro 2 en Nouvelle-Calédonie. Passerelle, une émission de Dominique Agnel et Jean-Luc Blin, réalisée par Maryse Friboulet. Et mixage aujourd'hui, Eric Plesco, avec l'aide technique de Sony pour cette deuxième émission en enregistrement digital. Également l'aide technique du théâtre. Merci, à la semaine prochaine.